La deuxième épître de Paul aux Corinthiens, toujours au chapitre 3, mais cette fois-ci au verset 18. La dernière fois, nous avions étudié ensemble le verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ ». Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attache sur le verset 18. Notre thème, évidemment, c'est toujours « Soyez remplis de l'Esprit » et au fur et à mesure des dimanches, des méditations, nous abordons, nous étudions ensemble différentes facettes du ministère du Saint-Esprit. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Saint-Esprit est une personne complète. Je le dis souvent, c'est une personne complète, une personne riche, infiniment variée. Et nous ne pouvons pas, frères et sœurs, c'est un grand tort qui se commet dans beaucoup d'assemblées, dans différents mouvements, ou même des assemblées de chez nous, c'est que parfois on prend du Saint-Esprit que ce qui nous arrange. Je ne peux pas, vous êtes marié, je vis avec une épouse, vous vivez avec un conjoint, vous ne pouvez pas prendre de votre conjoint que ce qui vous arrange. Il est là et vous prenez tout et vous l'avez épousé lui, vous l'avez épousé elle. Le Saint-Esprit, je ne peux pas le disséquer, excusez-moi l'expression, quelque part je l'ai épousé, je l'ai accueilli, je l'ai reçu de tout mon cœur et j'ai besoin de vivre une dimension de vie, de communion avec lui, avec sa personne et de connaître les différentes facettes de sa personne et de sa volonté pour moi. Beaucoup de chrétiens vivent le Saint-Esprit simplement d'une façon extérieure. Et quand on leur dit Saint-Esprit, ils pensent tout de suite aux dons, aux manifestations, aux guérisons, aux démons chassés, etc. Tout ça, c'est vrai, ça fait partie du Saint-Esprit, mais pas que. Et l'ensemble de la personne du Saint-Esprit nous amène dans différents axes d'études et de travail à l'intérieur, parce que le Saint-Esprit, même si c'est vrai, je sais, c'est comme ça, c'est humain, on aime beaucoup le Saint-Esprit qui agit à l'extérieur, dans les circonstances, il change les temps, il change les circonstances, il change les gens, il guérit les corps, ça, tout ce qu'il fait à l'extérieur, ça on aime beaucoup, et c'est bien de l'aimer comme ça, bien sûr. Mais il ne faut surtout pas oublier une autre facette tout aussi importante et miraculeuse du ministère du Saint-Esprit sur la terre en nous, c'est de nous changer, c'est de nous transformer. Et très souvent, on demande beaucoup de choses au Seigneur, des choses qui sont louables, mais notre relation, notre compréhension et par conséquent nos prières sont incomplètes, parce qu'on ne s'est peut-être pas franchement tenu devant Dieu en disant « Seigneur, change-moi ». Alors, le titre de ma méditation, la dernière fois on a fait une lettre de Christ. Aujourd'hui, je regarde avec vous cette méditation que j'intitule « Transformé par le Seigneur l'Esprit ». Et c'est très simple, ça sort de 2 Corinthiens 3, 18. Verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformé en la même image, de gloire en gloire, là il y a une notion de cheminement, de progrès, d'avancement, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. » Je crois, frères et sœurs, c'est pas méchant, je parle aussi pour ma propre vie parce que j'ai la même nature humaine et la même tendance à vouloir inconsciemment utiliser Dieu pour qu'il change les circonstances, pour qu'il change il me change de lieu de travail, pour qu'il me change de patron, pour qu'il me change de collègue, pour qu'il change ma femme, pour qu'il change mes enfants, pour qu'il change ceci, pour qu'il change cela, parce que je sais qu'il a la capacité de changer les autres. Et souvent j'oublie dans mes prières de dire « Seigneur, et moi, change-moi, j'ai besoin que tu me changes ». Un jour, j'avais fait une prédication sur la patience. Peut-être que dans les temps qui viennent, on étudiera aussi le fruit de l'Esprit. Et dans une prédication sur la patience, on s'était évertué à montrer les bienfaits, l'intérêt, la richesse de la patience. Et au bout de 40 minutes où on donne tout ce qu'on peut, on coule, on transpire, on a tout expliqué en long, en large et en travers, il y a un couple, des braves frères et sœurs, c'était pas ici bien sûr, qui après la réunion m'attrapent et me disent « Bah, tu sais, quand nos enfants ils seront obéissants, eh bien, à ce moment-là, on sera patient. » Quand tes enfants seront obéissants, tu n'auras plus besoin d'être patient.
Pourquoi tu as besoin de la patience de Dieu? Parce que l'autre n'est pas encore transformé. Pourquoi est-ce que l'autre a besoin de la patience de Dieu? Parce que tu as encore des lacunes, parce que tu as encore des limites, parce que tu as encore des défaillances. J'ai besoin, moi, d'être transformé sous différents aspects de ma vie. Et on a besoin de réaliser notre besoin de changement. Dieu, mes frères et sœurs, je le dis souvent, l'évangile, ce n'est pas une religion. Dieu ne veut pas une vie d'apparence. Il n'a que faire des rites, des traditions, des liturgies, des choses bien cadrées, bien réglées, de nos récitations évangéliques, pardon. Il n'a que faire de tout ça. Dieu ne veut pas une vie d'apparence. Dieu veut une vie de ressemblance. Le Père a des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Le Père a sa volonté, Jésus-Christ a fait sa part. L'une des parts extraordinaires du ministère du Saint-Esprit en moi, c'est de m'amener à la ressemblance de Jésus, à la ressemblance du Père. Le Père veut des enfants qui lui ressemblent. Quand on vient vous voir, messieurs ou mes sœurs, et puis que l'on vous dit, oh là là, votre fille, oh, elle est belle, hein? Et puis on enchaîne, qu'est-ce qu'elle vous ressemble? Oh, quelle satisfaction! J'ai fait des beaux enfants et en plus on m'a dit qu'ils me ressemblaient. Quelqu'un m'a dit récemment, quand j'ai marié Naomi, enfin c'est monsieur le maire qui l'a mariée, au mois d'août, quelqu'un m'a dit, oh, qu'est-ce qu'elle est belle votre fille! Ah vraiment, elle ressemble à sa mère. Hein. Tant pis. La joie de Dieu, c'est qu'on progresse vers sa ressemblance, et qu'on lui ressemble de plus en plus. Mais cette ressemblance, vous avez compris, bien sûr, ce n'est pas une ressemblance physique, c'est une ressemblance spirituelle, c'est une image spirituelle, l'image qui a été perdue dans le jardin d'Éden par la chute. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, il est la réponse de Dieu pour notre incapacité à tellement de choses, mais notamment cette incapacité à nous recréer nous-mêmes et à nous restaurer nous-mêmes dans l'image de ce que nous étions avant la chute, avant le péché. Et l'apôtre Paul déclare aux Romains 8, proclamation extraordinaire, nous sommes prédestinés à être semblable à l'image de son Fils. Prédestiné, c'est la volonté de Dieu, c'est aussi notre appel, c'est notre vocation. Nous sommes prédestinés. Je suis né de nouveau. Le Saint-Esprit et la parole dans leur action conjointe m'ont fait naître à la vie de Dieu. Je suis né de nouveau. Mais une fois que je suis né de nouveau, oui, c'est sûr, j'étais perdu, j'irai au ciel. Amen. Mais le but de Dieu, ce n'est pas seulement de m'emmener au ciel un jour. Le but de Dieu et le but de la présence du Saint-Esprit et de son ministère, c'est de me faire grandir et de m'amener de plus en plus à sa ressemblance. C'est notre vocation, c'est notre appel. Nous sommes prédestinés à être à l'image de Jésus. Amen. Alors évidemment, pas dans notre personnalité, mais dans notre caractère. Et souvent, frères et sœurs, nous faisons une grosse erreur de confusion entre la personnalité et le caractère. Vous avez des gens qui sont plus tranquilles. Poum, 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 poum. Eh bien, je n'ai pas besoin de me bagarrer pour que ça devienne un énergumène. C'est sa personnalité. D'autres sont un petit peu plus speed. Bon, on a des personnalités. Dans la personnalité, on a une sensibilité. Vous avez des gens, c'est naturel, c'est normal, Vincent le disait tout à l'heure, des gens parfois sont un petit peu plus émotifs. Et puis d'autres, un petit peu moins. C'est une sensibilité, c'est une personnalité. Mais Dieu ne vient pas détruire ma personnalité. Jacques reste pleinement Jacques quand il écrit, il reste juif, et quand vous lisez son épître, vous voyez qu'il écrit de façon circulaire, il a une façon de raisonner qui est typiquement hébraïque. Jean reste Jean, Pierre reste Pierre, ils ne sont pas devenus des clones, ce ne sont pas des clones du pasteur, de l'ancien, la femme n'est pas un clone de son mari, le mari n'est pas un clone de sa femme, on a une personnalité. L'apôtre Paul reste pleinement lui-même l'apôtre Paul. Moïse et Josué étaient des hommes totalement différents, même s'ils vivaient avec le même Dieu, les mêmes principes et la même vision. La personnalité, ça, on n'y touche pas. Mais le caractère, c'est-à-dire les attributs, l'impatience, ça, c'est un problème. Le manque de sagesse, c'est un problème. Le manque de fidélité, c'est un problème. Le manque de joie, le manque de paix, le manque d'amour, le manque de maîtrise de soi. Tout ce qui a trait à mon caractère, ça doit être changé. Nous avons des personnalités différentes, nous avons des façons de nous exprimer, des sensibilités différentes, c'est tout à fait normal, mais au niveau du caractère, il n'y a pas « ouais, il faut m'aimer comme je suis, il faut me prendre comme je suis ». Non, ouais, oui, on s'aime comme on est, évidemment, mais il ne faut pas en rester là. Il faut absolument progresser dans le caractère vers la ressemblance de Jésus. Je me fais bien comprendre ? Faites la différence entre la personnalité et le caractère. Nous allons de progrès en progrès. Nous sommes en chemin. Et une fois que nous sommes entrés dans la vie par la nouvelle naissance, c'est pour grandir à la ressemblance de Jésus. Une fois que nous sommes entrés dans ce chemin qu'est Jésus-Christ, il faut le pratiquer et il faut avancer. Parce que toutes choses sont en train de devenir nouvelles, selon ce que Paul dit aussi dans ses épîtres. Nous sommes, excusez-moi de le dire, je ne vais pas me culpabiliser, il faut être très équilibré, je ne vais pas me flageller parce que je ne suis pas encore assez bien. J'ai conscience de ce que je suis, vous avez conscience de ce que je ne suis pas, j'ai conscience de ce que vous n'êtes pas, vous avez conscience de ce que vos conjoints, l'un à l'autre, ne sont pas, mais j'ai conscience que je suis en chantier. Nous sommes en reconstruction. Un jour, dans un rassemblement de jeunesse, c'était super, il y avait une jeune, elle avait écrit sur son t-shirt, elle avait un t-shirt noir pour le service, et puis devant, il y avait marqué « Soyez patient », et derrière, il y avait marqué « Dieu n'a pas fini son travail en moi ». Alors, quand on l'a regardé de face, il y avait marqué, en la voyant, on se disait « C'est quoi ce t-shirt? C'est sympa, ça. Soyez patient avec moi ». Puis une fois qu'elle nous avait servi, elle se retourne, elle s'en va, puis là, on lisait « Ah, Dieu n'a pas encore fini son travail en moi ». C'est tout l'équilibre où je comprends que oui, je ne suis pas parfait, je suis en chemin, mais effectivement, si je ne suis pas parfait, il faut que je sois en chemin et j'ai conscience que c'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Je suis en chantier, pardonnez-moi, je suis en reconstruction, c'est une rénovation de fond en comble à l'intérieur, dans le caractère, dans les attributs, dans la façon de penser, la façon de raisonner, la façon de parler, la façon d'être, dans les choix, dans les priorités, dans la vision, dans la compréhension, dans l'analyse des choses. Je suis en recréation totale et permanente, mais il faut que le chantier il avance. C'est normal. Et là, frères et sœurs, là c'est pareil. L'important, ne soyez pas trop exigeants les uns avec les autres. L'important, c'est que le chantier, il avance. Mais l'apôtre Paul a dit, de progrès en progrès, de gloire en gloire, nous sommes transformés. Il n'a pas dit que tout devait se faire du jour au lendemain. Et si tu regardes l'Église en te disant, ça n'avance pas, fais attention. Parce que Jésus dit, un jour on va te mesurer avec la mesure dont tu te sers. Et un jour il y aura quelqu'un sur ton chemin qui va t'interpeller, qui va te dire, comment ça se fait qu'au bout de 10 ans de vie chrétienne, tu n'es pas encore comme ça. Donc l'important, c'est que nous soyons en marche, frères et sœurs. Il faut être en marche dans ce chemin. Et ensuite, j'ai toujours dit, vous savez, vous avez tous, l'important, c'est que vos enfants y grandissent. Il y a eu des périodes de leur vie, vos enfants, ils ont grandi peu, très peu, un petit peu. Puis il y a des moments, ils ont eu des pousses de croissance énormes. Puis vous êtes dit, waouh, il a grandi d'un coup. Là, vers les 15-16 ans, souvent, les garçons, ils prennent un coup de pouce comme ça sur le coup de l'été. Vous les laissez au mois de juin, vous les reprenez en septembre, ils ont pris 10 cm. Vous dites, waouh. Frères et sœurs, l'important, c'est de comprendre que nous avons besoin de changement, que nous sommes tous en chemin, en progrès, en marche. Dans ce chemin, nous sommes tous en reconstruction. Et l'important, c'est qu'on l'ait tous pris à cœur pour pouvoir progresser. Mais je le dis toujours, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, dans une église, je sais, c'est comme ça, c'est dans la famille aussi, c'est chacun à son rythme. Il y a eu des périodes de ma vie où, merci mon Dieu, Anne a été extrêmement patiente. Il y a eu des périodes de ma vie où Anne, elle était extrêmement patiente parce que j'étais en stagnation et même plutôt en péril. Parce que si nous sommes des chefs-d'œuvre aux yeux de Dieu, parce qu'il a la vision, il sait ce qu'il veut faire avec nous, si nous sommes des chefs-d'œuvre en devenir, il y a des moments, je peux vous dire dans ma vie, j'étais plutôt un chef-d'œuvre en péril, hein, ça dégringolait sérieux. Anne a fait preuve d'une immense patience pour que la croissance reprenne. Elle a su se taire. J'insiste, frères et sœurs, elle a su se taire. Elle a su se retirer. Elle a arrêté de me faire la morale. Elle a arrêté de me dire « tu grandis pas assez vite ». Comment ça se fait que tu n'as pas encore compris ça? Comment ça se fait que tu n'es pas encore comme ci? Comment ça se fait que tu n'es pas encore comme ça? Elle a compris qu'en chemin, elle comme moi, on grandissait chacun à notre rythme et qu'en réalité, non seulement j'avais besoin du Saint-Esprit autant qu'elle pour être transformée intérieurement, elle avait compris que ses paroles ne changeraient rien à ma compréhension des choses, et si elle a compris que le Saint-Esprit l'a changé elle, elle a compris un jour, et ça a été salutaire pour notre couple, qu'elle ne pouvait pas me changer. Et bien, quand tu as compris que tu ne changeras pas ta femme, ni ton mari, ni ton pasteur, ni ton église, ni tes enfants, ben déjà, quand tu as compris ça, tu as fait un énorme pas sur le chemin de la sagesse. Et ça va changer toutes sortes de comportements. Nous sommes transformés par le Seigneur l'Esprit. C'est un point commun, c'est quelque chose qui nous remet tous au même niveau. Nous avons tous besoin de la grâce du Saint-Esprit, parce que personne ne peut se changer lui-même. Nous avons plein, frères et sœurs, nous avons plein de points en commun. C'est incroyable, plus j'y pense, plus je me dis, Seigneur, mais c'est incroyable, on a l'impression qu'on a beaucoup de différences les uns les autres. Des fois, on se dit, ah, mais lui, il fait ça comme ça, elle, elle fait ça comme ça. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Ouais, mais lui, il conçoit ça comme ça. Ouais, et puis, on a l'impression qu'on est aux antipodes les uns des autres et qu'on n'a rien en commun. Mais on a, frères et sœurs, on a une multitude de choses en commun. Premièrement, la chose qui doit déjà nous mettre au pied du Seigneur, on est tous pécheurs. Il y a quelqu'un qui est arrivé en char de feu, qui est descendu du ciel ce matin? Non? Eh bien, nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous sauvés par la même grâce. Nous avons tous le même sauveur. Nous avons tous été purifiés par le même sang. Nous avons tous été plongés dans le même baptême. Bon, heureusement, on a changé l'eau, hein, entre-temps, de les baptêmes, on a renouvelé avec le robinet. Mais c'est dans la symbolique, on a tous été plongés dans le même baptême. Nous avons tous reçu le même esprit. Ça a été rappelé, nous avons tous les yeux fixés sur le même ciel, d'où nous avons le même Père Céleste, où nous attendons le même Seigneur et Sauveur. Nous avons tous le même diable, on a tous le même ennemi. Nous avons tous les mêmes tentations. D'une façon ou d'une autre, on a eu tous les mêmes échecs. Si quelqu'un me dit « moi, j'ai jamais connu l'échec », je lui dis avec amour « t'inquiète pas, ça arrive ». Ça va arriver beaucoup plus vite que ce que tu crois. Nous avons tous les mêmes échecs. On a tous les mêmes brisements. On a tous besoin de cette restauration, de cette reconstruction intérieure. On a tous des membres de famille captifs. Je ne vous fais pas lever la main, vous vous connaissez suffisamment depuis le temps dans l'Église. On a tous des membres de famille captifs. On a tous pleuré pour nos enfants. Et certains pleurent encore, parce qu'il y en a qui pleurent, certains de la famille sont revenus, mais d'autres pas tous. On a tous pleuré pour nos enfants. On a tous servi dans les Églises. On a tous été déçus à un moment ou à un autre. On a tous connu des phases d'injustice. On a tous des problèmes de caractère. On est tous en marche vers cette perfection de Dieu, vers ce caractère sublime de Jésus-Christ, tous imparfaits, tous en chemin, tous besoin de faire des progrès. C'est notre condition. Nous allons de progrès en progrès. La transformation a commencé, le travail de reconstruction a commencé, vous êtes tous, et si vous pouviez vous regarder vous-même et les uns les autres, non pas pour vous passer de la pommade, mais pour vraiment comprendre l'œuvre de Dieu et l'unité de l'Église, vous êtes tous des chefs-d'œuvre en devenir. Dans la vision, dans la pensée de Dieu, vous êtes parfaits. Mais sur cette terre, vous ne l'êtes pas encore, vous êtes des chefs-d'œuvre en devenir.
Ça vous fait drôlement plaisir. Hein. Et mettez un petit coup de coude gentil à celui qui est à côté de vous, puis dites-lui, hey, ne sois pas un chef-d'œuvre en péril, s'il te plaît. Hein. Sois un chef-d'œuvre en devenir. J'insiste parce que c'est quand même sur mon cœur. On va parler de tous les aspects de la transformation et de la façon dont Dieu s'y prend pour nous transformer. Mais frères et sœurs, je veux vraiment insister sur ce point. Nous avons besoin de réaliser que nous sommes tous dans cet état de besoin. Nous avons un besoin de changement, de transformation. Ce qui fait que oui, c'est normal, mon foyer n'est pas parfait. Oui, mon église n'est pas parfaite. Un jour, je ne sais plus qui, je crois que je me souviens, mais je ne dirai pas le nom. Un jour, un pasteur disait à son église, si, parce qu'on a tous tendance à idéaliser les églises, et on voudrait une église où on n'a jamais de déception, où on n'a pas de combat, où on est une église parfaite, quoi. Et puis, le brave pasteur disait... À son auditoire, il disait, écoutez, rendez-moi un service, frères et sœurs, s'il vous plaît. Je sais que je ne suis pas parfait, je sais que les gens qui servent dans l'église ne le sont pas non plus, je sais que notre église n'est pas parfaite, et je le déplore et j'y travaille, mais je vais vous demander juste un service, s'il vous plaît. Si un jour vous trouvez une église parfaite, s'il vous plaît, n'y allez pas. Parce que le jour où vous irez, elle sera plus parfaite. Je crains que le salaire du pasteur ait diminué le dimanche suivant, mais nous sommes tous dans cette imperfection de l'Église, parce que l'Église idéale n'existe pas. Je suis en devenir, l'Église est en devenir. Alors évidemment, dans ma vie, dans celle de mon couple, dans celle de l'Église, il y a des défaillances, il y a des limites, il y a des incompréhensions. Il y a des chutes, il y a des manquements, il y a des défections, il y a des déceptions, il y a des oublis, il y a des ratés. Ce n'est pas vous les ratés, c'est ce qu'on a raté de faire. Il y a de l'indifférence, oui ça arrive, il y a des paroles maladroites qui sortent. Et malheureusement ça arrête beaucoup de chrétiens, parfois même beaucoup de pasteurs. Je m'excuse, les églises du Nouveau Testament n'étaient pas parfaites. Sinon, il n'y aurait pas eu les épîtres. Pourquoi est-ce que la moitié du Nouveau Testament sont des épîtres adressées aux églises ? Pour corriger, pour redresser leurs imperfections. Parce que même les églises primitives étaient loin d'être parfaites. Et je ne le suis pas, nous ne le sommes pas non plus. Alors face à tout cela, je ne suis pas maso. Mais j'ai appris, frères et sœurs, à apprécier dans une certaine mesure, on ne va pas passer de la pommade, mais dans une certaine mesure, j'ai appris à apprécier les erreurs et les manquements des autres. C'est pas bien, c'est pas cool, c'est pas bon du tout. Mais le fait, et c'est ça le miracle de l'Église, c'est ça le miracle de l'Église, c'est qu'à l'intérieur de l'Église, lorsque nous sommes confrontés les uns aux autres, à nos manquements, lorsque nous sommes confrontés à nos limites, à nos défaillances, à nos incapacités, nous réagissons et nos réactions à ce moment-là, face à l'imperfection, à la défaillance, au manquement de mon frère ou de ma sœur, quand je réagis à ce moment-là, il faut faire un arrêt sur image. La façon dont tu réagis face au manquement des autres te dit à quoi tu en es dans ta propre sanctification. Face à tout cela, j'apprends sur moi-même, je réalise où j'en suis personnellement. Et du coup, je suis renseigné par les manquements des autres, je suis renseigné sur mes propres besoins, sur mes propres manquements, sur mes besoins de progrès. Et à un moment... Et si sous prétexte qu'il ou elle a dit ça ou pas fait ça, t'es plombé, je m'excuse, tu n'as pas la dimension de fruit, d'amour, de paix et de joie, puisqu'il a suffi de pas grand-chose pour que ta joie dégringole, tu n'as pas la dimension que tu penses. Tu réalises tes propres besoins de changement et de progrès. Seigneur, vis-à-vis de ce frère, de cette sœur, de cette situation, là j'étais extrêmement limité, là je me suis totalement effondré, il y a un truc, ça m'a profondément agacé, ça m'a gâché ma journée ou ma demi-journée. Seigneur, j'arrête pas. Mais arrête-toi. Seigneur, j'ai besoin de changer et de progresser sur ce point.
Vous êtes des révélateurs pour moi. Et je dois être, et les uns les autres, nous sommes des révélateurs, les uns pour les autres. Je vais réaliser ce qui me manque, et une fois que j'ai réalisé ce qui me manque, et donc ce qui manque à l'Église, je vais l'apporter à l'Église par ma propre transformation. Si je suis plus joyeux, l'Église sera plus joyeuse, je vais lui apporter. Je vais apporter plus de paix, je vais apporter plus d'amour à l'Église. Et très souvent, même des pasteurs, pardon, ne comprennent pas ça, que ce soit des chrétiens bien sincères, des pasteurs de bonne volonté, ont du mal à saisir ça, on se décourage et puis ensuite on abandonne, ou alors on est devenu dur, on est devenu autoritaire et la parole est devenue une espèce de bâton, de baguette pour faire marcher tout le monde au pas, comme moi je pense qu'il faut marcher, etc. Ou alors on abandonne. Frères et sœurs, c'est normal dans une certaine mesure. Nous sommes tous confrontés à cette réalité de l'imperfection de nos vies, des autres, et par conséquent de l'imperfection de l'Église. Ok ? Mais, je ne sais pas vous, mais moi, l'Église, j'ai décidé de l'aimer, j'ai décidé de lui consacrer ma vie, j'ai décidé de la servir, j'ai décidé de l'enrichir, j'ai décidé de la chérir, j'ai décidé d'être un outil entre les mains de Jésus parce que c'est lui qui l'a construit, j'ai décidé d'en prendre soin, j'ai décidé de la porter par le dessous, j'ai décidé de la supporter, souvenez-vous, supporter, porter avec humilité, porter par le dessous, j'ai choisi de la porter, j'ai choisi de l'encourager, c'est un choix, j'ai choisi d'être rempli du Saint-Esprit afin que par ma propre transformation, l'Église puisse avancer. Je ne sais pas vous, mais moi je vous le dis, c'est ma vision. Je sais que beaucoup la partagent. C'est notre vision. Transformer. Une fois qu'on a réalisé notre besoin de changement, si on a réalisé aussi le pourquoi de nos imperfections, le pourquoi des imperfections des autres, on a besoin de réaliser aussi que nous sommes transformer. Il y a une mesure active, on le verra ensemble, de par notre communion et notre engagement de cœur avec Dieu. Il y a une part active, mais il y a une part passive, parce que je ne me change pas moi-même. Je ne peux pas me transformer moi-même. Nous sommes transformés par le Seigneur l'Esprit. Si vous regardez un petit peu plus tôt, si vous avez vos Bibles encore ouvertes, mais au verset 5, Paul dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et nous avons besoin d'être transformés. Ce qui nous amène à ce point de compréhension de la vie chrétienne. La vie chrétienne, frères et sœurs, la vie de Dieu, est un pur miracle. Le miracle, ce n'est pas seulement un boiteux qui marche. Le miracle, c'est une vie changée, transformée, qui avance de progrès en progrès et de gloire en gloire vers la ressemblance parfaite du caractère de Jésus. Ça, c'est un pur miracle. La vie de Dieu, c'est un miracle. La vie chrétienne, c'est un pur miracle. Elle n'est pas à ma portée. Elle est surnaturelle. Elle est extraordinaire. Elle vient d'ailleurs, elle vient d'un autre royaume, elle vient d'une autre dimension, elle n'a rien d'humain, ça ne trouve pas son origine sur la terre, dans l'homme, dans sa bonne volonté. Je ne peux pas, par un travail sur moi-même, ça c'est le boulot de la psychologie et des religions, de faire un travail où je fais un travail sur moi-même pour quelques améliorations. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas de l'amélioration. La vie chrétienne, c'est de la transformation. Amen. Par étapes, de progrès en progrès, mais des transformations. Quand on fait un travail sur soi, quand on essaye de bien faire, déjà on finit toujours par se planter,
puis on est deux fois plus déçu et deux fois plus mal que la fois précédente. Mais quand on essaye de faire un travail sur soi et qu'on arrive à avoir quelques petites améliorations dans nos vies, ça s'appelle l'ancienne vie qui essaye d'imiter la vie nouvelle. C'est l'ancienne vie qui essaye de produire quelque chose. C'est ma vieille nature, c'est mon vieux moi profond, mon vieil homme qui essaye de produire quelque chose. Et puis une fois que j'ai réussi à produire un petit quelque chose, vient un sentiment de suffisance, de satisfaction malsaine et de supériorité. Je te rends grâce, ô mon Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste de l'Église. Et comme ça ne dure pas, on finit par dégringoler. Et après, on retrouve le fouet évangélique. Oh, je ne suis pas bien, je n'arrive pas, je n'ai pas été capable, j'avais promis au Seigneur. Quoi ? Tu fais des promesses au Seigneur ? Il faut arrêter tout de suite. Hein. Nous sommes des hommes. Le seul qui a le droit de faire des promesses, c'est Dieu. Ne promets pas au Seigneur des choses que tu ne peux pas tenir. Demande-lui sa grâce d'être transformé, c'est dans ce sens-là que ça marche.
Ah, j'avais promis au Seigneur, et puis j'avais dit que je ferais ça. J'étais tellement motivé, et puis j'avais dit au Seigneur que je me lèverais tous les jours à 7h et que tous les matins j'aurais un temps de communion avec lui. Cette semaine, j'étais tellement crevé, je ne me suis pas levé, je n'ai pas lu ma Bible. Voilà. Frère, qu'est-ce que vous pensez, le Seigneur ? Qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Moi, je me demande si je suis une bonne chrétienne quand même. Et tout.
Ça, c'est l'ancienne vie, la vieille nature, qui essaye de produire quelque chose. Je ne peux rien concevoir ni produire de moi-même. C'est le travail du Seigneur, l'Esprit, en moi. Je ne me transforme pas, les autres ne me transforment pas, je ne transforme personne, ni conjoint, ni enfant, ni pasteur, ni église, ni chorale, ni moniteur d'école du dimanche, ni ce que vous voulez. C'est le Saint-Esprit qui va s'en charger. Nous sommes transformé, parce que ce n'est pas à notre portée, c'est un pur miracle. Et c'est pour ça qu'il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit, pas seulement rempli de puissance pour chasser des démons ou toutes les manifestations de puissance, c'est très bien, mais être rempli du Saint-Esprit dans toutes les facettes de son ministère, pour nous, avec nous, en nous, parce qu'on ne vit pas la vie de Dieu sans Dieu le Saint-Esprit. Ça ne marche pas. Je ne vis pas la vie de Dieu sans Dieu, le Saint-Esprit. Notre capacité vient de Dieu. Nous sommes transformés. C'est un miracle de l'Esprit en nous. Et c'est un miracle, c'est un aspect du ministère de l'Esprit, frères et sœurs, que nous ne devons absolument pas négliger. Cette œuvre, elle est primordiale. Le Saint-Esprit est venu faire sa demeure dans nos cœurs, parce que ça répond aux promesses de Jérémie, d'Ézéchiel, de Jésus, etc., etc. Même, ça remonte, même on l'a vu ensemble, à l'Exode, ça remonte au temps ancien. Le ministère du Saint-Esprit, dans l'un de ses principaux aspects, c'est d'écrire. Je vous avais dit, le Saint-Esprit est appelé le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, le Seigneur, l'Esprit, écrit lui-même ses principes de vie. Il les imprime, il les grave dans mon être intérieur. Et je suis transformé. Ok ? Alors on ne va pas se flageller. On ne flagelle pas les autres. On ne va pas se suffire à nous-mêmes en disant « Oui, bon, finalement, puisque ce n'est pas moi qui peux me changer, ben allons-y gaiement. » Vous avez compris. Il y a tout un équilibre dans la vision de la transformation, dans cette présentation de l'œuvre de Dieu. Trop souvent, frères et sœurs, face à des limites, j'insiste, hein, je vous ai dit qu'on avancerait tranquillement, trop souvent par rapport à des limites de caractère, de ceci. Quelqu'un me disait récemment, mais est-ce qu'on peut aimer tout le monde ? Moi, j'y arrive pas, moi. Et on a l'impression, je ne sais pas, qu'on a sorti un truc quand on dit, moi, j'y arrive pas. Je dis, ah bon, tu viens seulement de t'en apercevoir ? C'est normal que tu n'y arrives pas. Ce n'est pas à ta
porter. Et le problème, c'est que souvent dans nos vies chrétiennes depuis des années, on a toujours un évangile méritoire. On est beaucoup plus dans l'évangile méritoire que dans l'évangile de la grâce. Même si la grâce figure sur nos lèvres, sur nos chants et dans nos confessions de foi, inconsciemment, on fonctionne plus avec un évangile méritoire qui met l'accent sur l'homme, ses mérites et ses efforts. Et moi, j'ai fait que, et j'ai réussi que, et je veux être un bon chrétien, et je veux être une bonne chrétienne, et je veux faire tout ce que je peux pour. Et puis un jour, on dit, mais j'y arrive pas. C'est normal que tu n'y arrives pas. Bien sûr, il ne faut pas en rester là. Mais c'est normal que tu n'y arrives pas, puisque c'est l'œuvre du Seigneur l'Esprit. Et l'efficacité de ce que l'Esprit va faire dans ta vie dépend purement de la dimension de communion que tu vas avoir avec lui jour après jour. Jésus, je vous l'avais rappelé la dernière fois, dans le contexte de Jean 15, dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et c'est dans le contexte de la sanctification, c'est dans le contexte de la transformation que Jésus dit ça. Dans le contexte de la sanctification, Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, vous ne porterez pas un fruit à la gloire de Dieu. Je n'arrive pas à aimer les autres, pas comme je devrais en tout cas. Je n'arrive pas à être toujours joyeux. J'arrive pas, je vois mes limites de patience qui ne s'étendent pas. Au contraire, plus je vieillis, plus je sens que mes limites de patience, j'ai épuisé mes réserves avec un tel, j'ai épuisé mes réserves avec un tel, j'ai épuisé mes réserves avec tel enfant. Je diminue, je périclite, je me sclérose. J'arrive pas à rester paisible en toutes circonstances. J'arrive pas à être maître de moi. C'est l'œuvre du Seigneur l'Esprit. On parlera la prochaine fois de tout cet aspect de la contemplation, de l'intimité, de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Juste dans ce mot « contempler », Paul l'a mis un condensé de théologie biblique, c'est extraordinaire. On verra ça plus tard. C'est tout un message à part. Nous sommes transformés lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur. Mais ça, je vous en parle la prochaine fois. Simplement, on reste sur ce point de réaliser notre besoin de changement et de réaliser que nous sommes transformés. Je vais vous partager un témoignage qui est revenu sur mon cœur. Il y a une grande période de ma vie chrétienne où malheureusement j'étais toujours vaincu par différentes choses, mais notamment j'étais vaincu par la colère. J'étais très irritable et j'étais très facilement agacé, même coléreux, et puis j'avais parfois ces moments, vous connaissez l'expression où on dit « il est sorti de ses gonds », où je sortais de mes gonds et j'étais énervé, j'avais des pulsions de colère et j'étais au travail et j'avais des pulsions de violence. Alors j'avais une petite couche de vernis, une petite couche d'activisme pour que tout ça ne se voie pas, j'avais une petite vie chrétienne bien rangée, bien religieuse, une vie d'apparence, alors que Dieu veut une vie de ressemblance. J'avais plusieurs couches de vernis, plusieurs couches d'activités qui finissaient par faire de l'activisme, et pourtant, la source là, à l'intérieur, ce qui sortait, c'était pas beau à voir. La source était polluée. J'étais tellement chiche, en amour, en joie, en paix, en patience, en miséricorde, en maîtrise de moi. J'avais pas la maîtrise de moi. J'avais des pulsions de colère, des pulsions de méchanceté, parfois des pulsions de violence. J'étais, vous le savez, j'étais policier dans la banlieue parisienne. J'ai fait 10 ans de nuit dans la banlieue chaude. Ça n'excuse rien, quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut tout traverser. Merci Seigneur, l'Esprit est plus que suffisant. Mais n'étant pas rempli de l'Esprit, j'ai eu des gros problèmes ensuite pour gérer les situations. J'étais policier dans la banlieue chaude, et à force de fréquenter, je juge personne, mais vous savez dans quel monde on vit, à force de fréquenter la délinquance, la misère, la saleté, la méchanceté, l'infamie, toutes ces choses, nuit après nuit, à force d'être confronté à l'injustice et d'avoir goûté de près la misère du monde, j'étais tellement écœuré, j'arrivais pas à le gérer par moi-même, j'étais pas rempli du Saint-Esprit, et par conséquent, il y avait une révolte en moi. J'étais chrétien, j'étais à l'intérieur, mais j'étais révolté. J'étais révolté contre eux. J'avais pas d'amour pour les pécheurs, j'avais pas d'amour pour les délinquants, j'avais pas d'amour pour les cas sociaux, j'avais pas d'amour pour les gens à problème. J'étais simplement révolté, j'avais une animosité qui montait et j'avais envie d'en prendre un pour taper sur l'autre. Et c'était juste le code de déontologie de la police nationale qui faisait en sorte que par moments je me calmais. Mais à l'intérieur, c'était pas calme du tout, la tempête était toujours là. Et il y a eu des moments, parce que ce qui est au fond du cœur doit forcément sortir. Au bout d'un moment, vous savez, la soupape, là, le dessus de la cocotte, là, le couvercle, il finit par exploser. Et j'ai fait comme Moïse, et il y a des moments où j'ai réglé des situations avec mes poings. Et j'avais toujours ma petite vie d'apparence avec ma petite guitare. Et puis, ça a duré longtemps. Puis en 2005-2006, je suis passé par un profond désert. J'ai vraiment eu cette prise de conscience. J'ai réalisé, j'ai vu à l'intérieur de mon cœur, j'ai vu qui j'étais réellement. Et quand j'ai découvert qui j'étais, et que je ne pouvais rien y faire, j'étais désespéré, j'étais au fond, j'ai failli tout abandonner. Un jour, je me souviens, il y avait un jour, j'étais assis sur l'estrade avec ma petite guitare, j'avais mon petit sourire évangélique, religieux, pentecôtiste, hypocrite. Et j'étais en train de jouer, mais j'avais maintenu la façade. Mais à l'intérieur, j'étais tellement mal. Alors que j'étais en train de jouer, j'avais une pression intérieure, j'entendais une forte voix, c'était la voix de l'ennemi, j'étais dans un désert profond. Et puis pendant que je jouais, que je souriais, et puis que je faisais comme si j'étais en train de louer Dieu, j'étais en train de jouer et j'entendais cette voix qui me disait « Ça suffit, bats les masques ». Laisse tomber, abandonne, t'es pas digne d'être chrétien, Dieu peut plus t'aimer, babababababababa. Et pendant tout le temps d'échange, j'étais comme ça, je luttais. Et puis j'étais mitraillé. Et je me voyais me lever, j'avais qu'une seule envie. J'en avais ras-le-bol d'entendre chanter Jésus, ta gloire, ton amour, ton machin. S'il y avait un truc qui commençait à me saouler au plus profond de moi, c'était d'entendre ces chants, ça devenait une insupportation. J'avais envie de prendre ma matraque, mon flingue et d'aller régler les problèmes dans les banlieues, tellement j'étais à cran. Et j'avais envie de descendre. Et puis là, je sais pas, il y a quelque chose, c'est que l'œuvre de la grâce de Dieu qui m'a retenu. Et alors qu'à un moment, j'ai même fait un pas en avant, j'ai failli me lever pendant le chant, poser ma guitare, et je me voyais aller voir le pasteur, je revois exactement où il était assis, et j'avais envie de lui dire, écoute, je suis pas qui tu crois, bats les masques, basta, n'essaye pas de m'appeler, merci, au revoir. Et je sais pas, c'est la grâce de Dieu à ce moment-là qui m'a retenu, parce qu'il avait une œuvre à faire en moi, et au fur et à mesure que je suis resté, j'ai commencé, par la grâce de Dieu, alors que j'étais au fond, du bas, j'ai commencé à remonter. Tout doucement. Et j'ai pas grandi en un mois. Il a fallu des mois de patience et mois après mois, enseignement après enseignement, il a fallu que je grandisse un petit peu à chaque fois et que je remonte la pente, que je sorte de ce trou. Et j'ai fini par avoir cette profonde soif de Dieu jusqu'au jour où j'étais à genoux au milieu de ma cuisine, j'étais en larmes et je ne demandais pas de changer les circonstances, je ne demandais pas de changer les banlieues, je ne demandais pas de changer le monde, je ne demandais pas plus d'argent, je ne demandais pas la guérison, je lui demandais « Seigneur, change-moi, misérable que je suis, Seigneur, change-moi où je suis perdu, tout petit chrétien hypocrite que je suis, change-moi ». Et l'œuvre a commencé, et je vous ai dit, ensuite le Seigneur m'a travaillé, sa parole, son esprit, beaucoup de choses ont été renouvelées en moi, et alors que je n'avais pas ouvert ma Bible depuis des années sans ouvrir ma Bible, vous êtes en train de vous dire, on n'a peut-être pas bien fait de le prendre comme pasteur celui-là. Pendant des années sans ouvrir ma Bible, j'ai commencé à retrouver une soif de Dieu. Et nuit après nuit, jour après jour, je ne me lassais plus, j'étais dans la parole. Et au fur et à mesure, plus j'étais dedans, plus la parole me changeait, plus je la buvais, plus j'avais soif, plus je comprenais, plus j'avais envie de comprendre, plus j'étais transformé, plus j'avançais, etc., etc. Jusqu'à ce moment de novembre, je vous l'ai dit, pour moi, un temps fort de ma vie, c'est la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2006, où j'ai connu une effusion puissante du Saint-Esprit. Et ça a transformé toute ma vie, les mois précédents et cet événement-là. Et puis, vous savez qu'avec Dieu, on passe toujours des tests. Parce que je suis désolé, il faut que je sache à quoi j'en suis. Il faut que tu saches, toi, à quoi tu en es. De ta progression, de ta marche, de ta vie avec Dieu. Il faut que tu saches à quoi tu en es. Et là, le Seigneur, il était en train de faire une œuvre, pas dans les circonstances, il était en train de faire une œuvre en moi. Et puis, un fameux jour, alors qu'en plus je sentais l'appel au ministère résonner dans mon cœur, Il fallait quand même que je retourne dans ma banlieue avec mes délinquants, dans la banlieue chaude, etc., chaque nuit, etc., etc. Et puis une nuit, alors que ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de personnel, on était en pénurie, et puis j'avais que deux genoux, deux petits stagiaires qui avaient deux mois de boutique, j'avais deux stagiaires avec moi. Il y a un homme, on a interpellé un homme pour diverses raisons, voilà, pour diverses infractions que je ne citerai pas. Et après avoir interpellé cet homme, une fois qu'on l'a déposé au commissariat, on l'a laissé au chef de poste, il a été placé en garde à vue. Le gars, je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est comme métamorphosé, transformé, il est rentré dans des pics, dans des excès de colère. Et puis il a commencé à vouloir en découdre, à tout casser, à vouloir casser la figure à tout le monde. Et du coup, moi je me suis retrouvé là, j'étais dans ma vie de flic, j'étais très très malin. Et j'avais toujours réussi à embobiner les gens, à les maîtriser. J'arrivais toujours à tout gérer. C'était ma fierté. Je gère tout. Tout se passe bien. Si tu vas en patrouille avec Brion, tu reviendras sain et sauf le matin parce que ça baigne quand c'est lui qui gère. Et c'était ma fierté que tout soit toujours bien géré. Je maîtrisais tout, je contrôlais tout. Et cette nuit, cet homme, j'ai impossible de le contrôler. Il était complètement déchaîné. Et au moment où j'ai voulu le maîtriser, forcément... Je me suis cassé une partie de la main, j'ai dû ensuite avoir deux opérations, 5 mois d'arrêt, j'ai laissé une partie de ma main, j'ai senti une immense douleur dans l'altercation pour le maîtriser. Et là, alors que mes collègues me disaient « Ouais, espèce de raclure !» et puis ils voulaient lui mettre le compte, j'ai dit « Non, arrêtez, ne touchez pas !» Et quand je me suis entendu parler, je me suis dit « C'est qui celui-là » J'avais pas envie d'en découdre avec lui, j'étais pas en colère. Merci Seigneur. J'étais plus en colère. J'avais plus de haine. J'avais plus d'animosité. J'avais plus envie d'en découdre. Je l'ai aimé, je pèse mes mots. Je l'ai aimé. Les collègues m'ont dit, ouais, c'est la procédure. De toute façon, quand un collègue est blessé, on s'occupe d'abord du collègue. Lui, il peut rester dans son sang, dans sa garde à vue. On s'en occupera plus tard. Viens, Stéphane, on t'emmène à l'hôpital. Je dis, non. Moi, je vais attendre là. C'est pas grave. J'avais la main en vrac. J'avais mis ma main comme ça. Je dis, moi, je vais attendre. Mais vous le prenez, lui. Vous l'emmenez à l'hôpital et vous vous occupez de lui d'abord. Et là, les collègues, ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, t'as changé, toi. Et après, je suis parti, je suis rentré dans le ministère. Frères et sœurs, on ne peut pas se changer soi-même. Chasser le naturel et il revient au galop. Nous sommes, je termine avec ça, j'ai encore tellement de choses à vous raconter, à vous raconter sur cette merveilleuse transformation. Frères et sœurs, comprenons simplement, réalisons notre besoin de changement, de le prendre à cœur et de réaliser aussi sincèrement que nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes, ni transformer les autres. Nous tous, qui contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de progrès en progrès, par le Seigneur l'Esprit. Amen. On continuera la semaine prochaine.